Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Cet auditeur m'écrit dans mon village, il y a plein de jeunes qui toute la journée se prélassent à la terrasse du bar alors que les hôtels et restos manquent cruellement de personnes. Merci les allocs en tout genre. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est pour ça que d'ailleurs les réformes d'assurance chômage, généralement, ça soulève pas le, ça soulève pas
juste
les foules.
Juste vous permettez une toute petite phrase.
Allez-y.
Parce que quand on regarde, moi quand le prof, je suis tombé sur le 7%. De chômage volontaire de la DARES, je croyais qu'il y avait un biais statistique, mais cette phrase-là, c'est aussi l'importance du travail de réflexion des organismes de recherche et des émissions comme celle-ci, c'est de se dire il y a ce qu'on voit et ce qui existe vraiment, parce qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui profite du chômage et qui en est content, mais ça n'en fait pas une réalité statistique. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de macroéconomistes pour dire, c'est pas parce que vous avez un cas chez vous personnel que c'est une réalité générale. Et donc on a tous quelqu'un autour de nous, mais c'est pas pour autant que les chômeurs, les demandeurs d'emploi sont tous des fainéants qui profitent de leurs allocations.
C'est la grande difficulté.
Si le macroéconomiste dit qu'il fait 10 degrés et que individuellement les gens ressentent moins 5, vous avez un sujet.
Non, mais il y a un sujet là-dessus.
Les macroéconomistes, ils n'évitent pas le ressenti et le ressenti, ce sont les urnes.
Ah, mais il ne faut jamais insulter le ressenti des gens.
Non, mais le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais l'expert, normalement, doit essayer, d'accord, de s'extraire de ce ressenti et de regarder les chiffres. Après, c'est vrai qu'il faut convaincre, et si le ressenti n'a pas bougé, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre.
Je vois très bien de ce que m'avait raconté à l'époque Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF. C'était un peu une autre époque. Hein. Le TGV était quand même beaucoup moins cher, avec un yield management beaucoup moins agressif qu'aujourd'hui. Il disait, objectivement, quand tu regardes mes prix de TGV, c'est pas du tout un coup de bambou par rapport aux autres pays à l'époque. Mais tout le monde pense le contraire. Je dois tenir compte du fait que tout le monde pense le contraire.
Donc il a monté les prix.
Aujourd'hui, c'est un peu différent. La manière de fixer les algorithmes sont devenus assez agressifs. Mais c'est un des problèmes que je rencontre en traitant l'actualité économique, notamment dans des chroniques de BFM TV sur un espace de 2 minutes 20, 2 minutes 30. On peut pas tout dire, on peut pas expertiser les chiffres dans toute leur complexité. J'ai toujours des tombeaux de réaction en disant ce que vous dites n'importe quoi, car moi, voilà ce qui m'arrive.
Nicolas, c'est pour ça qu'on a dit le 4%. Bon, c'est important, les gens l'ont pas en tête.
Le 4% de
la cotisation.
Oui. Ah non, mais on peut très bien regarder.
Parlons, c'est pas compliqué. 4% du salaire des gens, super brut, est utilisé à payer une cotisation chômage.
Oui, revenir un instant sur cette histoire
des retraites qu'on n'aura jamais, mais ça c'est autre chose. On peut ouvrir le sujet.
Ah mais ça c'est le dada des Rouen Tison. Revenons un instant, Eric, sur cette histoire de TVA sociale égale une dévaluation. Si je fais la TVA sociale, ça veut dire que je vais prendre
la retraite, c'est 20,
oui. 28. 28 sur 100 euros, c'est 28 euros, c'est ça.
Mais là aussi, on l'a pas beaucoup dit.
C'est 28 sur 100 euros de super brut, c'est 28.
Oui, c'est ça.
28.
Oui, non,
mais avec un taux de récupération pour ma génération qui est de 95%. Alors qu'il était de entre 300 et 400% pour génération années 20 et
95, vous êtes optimiste.
C'est la vie, cher jeune homme. Voilà, c'est comme ça.
Vous aurez 50%.
Oui, mais encore.
Si je décide de prendre un gros bloc de cotisation et que je les mets sur la TVA, donc je bascule vers l'impôt, Eric, on est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise en France qui produit et qui va exporter moins cher.
Exactement.
Et que l'entreprise qui importe en France va importer plus cher.
C'est-à-dire que
c'est exactement ça.
Voilà. C'est pour ça que ça fait des gains de compétitivité normalement, puisque l'entreprise nationale bénéficie des baisses de cotisation, pas l'entreprise étrangère, alors que les prix ont augmenté. Donc du coup, ça fait une compensation pour l'entreprise nationale, pas pour l'autre. Et donc quelque part aussi, ça veut dire qu'on fait payer une partie de notre modèle social par les étrangers, par les touristes, etc. Ce qui, à mon sens, n'a aucun sens. D'accord. On devrait se dire, on a un modèle social. Est-ce qu'on en est fier? Oui ou non. Si on en est fier, on le finance nous. On n'a pas à le faire financer par les étrangers. Vous voyez, on va être généreux chez nous, on va dire, ah, c'est pas grave, ce sont les touristes qui vont payer. Ça n'a aucun sens. D'accord.
C'est pourtant très séduisant de se dire
mais,
que.
Oui, d'accord, mais moi je pense que ça, pour moi, enfin, ça n'a pas de sens. Soit on dit c'est trop généreux, donc il faut le réduire, et on réduit les prestations, mais c'est pas aux Italiens, aux Espagnols ou aux pays émergents à financer.
Bah, c'est la CSG la solution.
Alors oui, c'est la CSG la solution. Bon. Parce que, vous voyez, la CSG, là, l'avantage, c'est que on dit c'est tous les revenus, quel que soit le type de revenu, que ça soit un revenu du capital, un revenu du travail,
ou une pension de retraite.
Et vous voyez, quand vous regardez en comparaison internationale, quand on dit qu'on a les prélèvements obligatoires les plus élevés, c'est vrai, et que c'est dans tous les impôts, c'est vrai. Non, pas sur l'impôt sur le revenu. On paye moins d'impôts sur le revenu globalement, d'un point de vue individuel.
Mais la CSG, l'impôt sur le revenu, c'est la même chose.
Eh ben oui, mais c'est justement, c'est pour revenir au niveau de tout le monde. On a un impôt de revenu, y compris CSG, plus bas que tout le monde en point de PIB. D'accord ? Donc du coup,
monter la CSG, c'est monter l'impôt sur le revenu, oui.
Exactement. Ah oui. Exactement. Et c'est de dire tout le monde va devoir y contribuer. C'est-à-dire pas, il y aura pas, c'est pas des exemptions. Il y a très peu d'exemptions de CSG, à part si c'est le RSA. Mais globalement, tous les types.
À l'inverse de l'IR, qui lui n'est bien payé sûr. Que par une partie de la population qui est minoritaire. Nicolas, et vous voyez, c'est vrai que l'IR rapporte quoi 3,3 du PIB. Alors dans un pays normal, c'est dans les 9 points.
Ben oui.
Sauf que les gens qui le payent le vivent très mal, parce que eux, ils en payent beaucoup.
Parce que l'assiette est trop petite. L'assiette est toute petite.
Parce que l'assiette est trop petite.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour changer ça?
Mais regarde, Nicolas.
Eh ben,
Nicolas.
La CSG, c'est une façon.
Non, mais Nicolas. Bon.
Allons-y.
C'est du bon taux. C'est du bon taux.
Ah, il y a un peu.
C'est du bon taux. C'est du bon taux.
Et alors, mais il peut avoir un bon taux, là. Mais, parce que bon taux, c'est un terme péjoratif. Bon taux, c'est un peu, je te fais un tour de passe-passe. C'est pas du tout un tour de passe-passe.
Oui.
Mais
il y a un côté bon taux, c'est vrai.
Parce que. On a ce débat un peu byzantin avec Eric sur savoir si c'est un impôt ou pas, la cotisation chômage. Moi, est-ce qu'on sent bien? Regardez la feuille de paye. Maintenant, on voit bien le sujet là, puisque la feuille de paye, vous avez le super brut, regarde. Vous avez l'ensemble des charges sociales et maintenant vous avez le prélèvement à la source. Il y a eu un débat, là, on attaquait M. Le Maire en disant qu'il a dit qu'il y avait 40% de différence, qu'il n'avait pas fait attention. Mais il parlait du super brut, donc il a raison. Et c'est un sujet, Nicolas, dont on parle depuis 15 ans sur ce plateau. C'est que le net à payer pour les Français est incroyablement inférieur au prix auquel il vend son travail.
Oui, on est d'accord.
Et maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, en plus, il voit l'ensemble de la chose. Donc, on est à des niveaux d'impôts et cotisations, mettons-les ensemble, qui sont insupportables. Donc si on monte la CSG, si vous la montez en net, si vous rajoutez, ça fera plus et donc il y aura encore moins.
Pourquoi, parce que si vous augmentez, vous n'avez pas vraiment un effet salaire net. Parce que à milliard donné, si vous baissez les cotisations que payent simplement les salariés, alors que la CSG, tout le monde en paye, y compris les retraités, etc.
La hausse de CSG ne.
Exactement. Vous aurez un effet sur le salaire net.
Eric veut baisser. Je finis le truc. Eric veut baisser donc. Le c'est pas un bulletin de salaire pour le retraité, mais il veut baisser le niveau de vie des retraités, j'entends.
Donc, mais Eric, c'est Erwan.
Bien sûr.
Ok. Mais enfin bon, tout ça fait donc.
Un impôt sur le revenu.
Plus d'impôts. Hein. Or.
Non.
C'est pas.
Mais non.
Deuxième sujet sur la TVA sociale, je réponds. Si vous montez. La TVA 25%, vous allez avoir, et ça se passe déjà dans certaines parties de la France, le retour de l'économie parallèle. Ça se passe pas ici, à Paris,
possible,
entre nous.
Dans certains secteurs, c'est possible.
Si vous mettez à 25%, c'est pour ça qu'il y a eu des baisses de TVA dans un certain nombre de secteurs. C'était qu'au fond, ça faisait que les gens la payaient au-delà d'un certain niveau. Les gens
craignaient que le consentement à l'impôt soit abîmé.
À 25%, ça change le prix. Les gens qui vont acheter, je sais pas, une paire de pneus. Il y a plein de sujets sur lesquels je peux vous dire que ça passera pas la TVA. C'est pas mauvais comme système en théorie. Enfin, vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose, mais en pratique, pas tout à fait.
Juste un point, ce basculement, on l'a testé en 2010.
Le basculement de quoi, pardon?
Le basculement du base des cotisations vers la CSG. La dernière fois qu'on l'a testé, c'était en 2017, et ça a été la plus forte hausse du salaire net de ces 20 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? Parce qu'il y a les gilets jaunes et parce qu'il y a eu un fort lobby d'une partie de la population qui n'a pas voulu augmenter son taux de CSG. Toute partie de la population qui est d'ailleurs un taux de CSG 1,2 points inférieur à celui des actifs au titre de non-recouvrement des frais professionnels. Je parle bien sûr des retraités. Donc là, ça coûte 3 milliards par an, il faudra aussi nous expliquer pourquoi.
Ça coûte pas.
Bah si, ça coûte.
Arrêtez si avec on avait les dépenses fiscales.
Si on avait un taux de...
C'est
alors,
pas
je,
des dépenses.
Je reformule. On perd chaque année moins d'impôts. Alors je reformule, on perd chaque année 3 milliards d'euros parce que justement, il y a un taux différencié entre les retraités et les actifs.
On gagne moins, c'est pas on perd.
On gagne moins. Donc du coup, si on fait cette bascule-là, le Danemark, par exemple, a un des différences entre le salaire net et le salaire brut qui est un des plus faibles, justement. Pourquoi? Parce que tout est mis sur l'impôt sur le revenu. On pourrait avoir, à condition effectivement d'élargir...
Le modèle est payé par l'impôt.
C'est un modèle
beveridgien pur.
Tout à fait, à condition d'élargir au maximum l'assiette. Et l'assiette, on peut l'élargir très fortement. Le coût de recouvrement annuel pour un contribuable, c'est 76 ou 77 euros. C'est-à-dire qu'en dessous, ça ne vaut pas le coup de prendre des impôts. Au-dessus, ça vaut le coup.
Nous, c'est 61, je crois.
61.
Une soixantaine.
On pourrait du coup se dire 5 euros par mois. On pourrait du coup se dire ceux qui payent moins, effectivement, on va pas chercher. Ou alors on crée une sorte d'impôt négatif. On peut réfléchir là-dessus. Et au-dessus, on va récupérer. Et là-dessus, on pourra déjà avoir. Là, pour le coup, on jouera sur le ressenti parce que si jamais vous augmentez votre salaire net de 5, 6, 7, 8% de manière instantanée, là, vous allez avoir de la consommation qui va être beaucoup plus importante et donc du coup de la croissance et donc c'est bon pour le moral. Et contrairement à la TVA, c'est quand même un impôt qui dispose d'une élasticité la plus négative par rapport aux autres et qui fait que mécaniquement
l'assiette est beaucoup moins large.
Mécaniquement, tout ce que vous allez mettre dans la hausse de TVA, vous n'êtes pas sûr de le récupérer derrière en consommation. Donc vous pouvez aussi gripper le principal moteur de notre croissance.
Ah oui, ça je le sur l'histoire de la répercussion sur la consommation et des pertes en ligne, c'est possible. Est-ce que c'est pas l'histoire de la fusion IRCSG notre discussion?
Non, ça peut être une solution. Le dernier point, c'est comment on finance nos dépenses aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des dépenses famille qui sont universelles. Tout le monde y a droit. Pas que les salariés, tout le monde y a droit. Pourquoi c'est les cotisations qui financent ? Ça, il n'y a pas de sens.
Il y a eu un coup de canif, quand même.
D'accord. Il y a des dépenses maladie, d'accord ? Les cotisations financent les dépenses. Mais pourquoi ? Tout le monde y a droit à ces dépenses-là. Donc là, on pourrait dire certaines cotisations, et là, je ne serais pas d'accord avec Guillaume, les cotisations chômage, c'est plutôt pour ceux qui travaillent. Donc c'est normal que ça soit des cotisations. Les retraites, c'est on ouvre des droits, donc que ça soit des cotisations. Moi, j'ai aucun problème. En revanche, tout ce qui est famille, tout ce qui est maladie, on devrait le transférer vers un impôt. Et donc, je n'appauvris pas les retraités, je les fais participer comme tout le monde à des dépenses. Pourquoi les retraités ne participent pas à ces dépenses-là qui sont universelles? C'est pour ça qu'il faut le faire passer.
Ça fait 35 minutes qu'on parle que d'avoir rajouté des impôts.
Non, parce que ça fait 35 minutes
qu'on n'attaque pas le sujet des dépenses.
On peut dire d'un côté les cotisations, c'est des impôts, et quand on les baisse, on dit tu ne baisses pas les impôts. Non, on baisse bien les cotisations.
35 minutes qu'on parle.
C'est un sujet hyper technique. On est rentré dans la complexité du sujet entre TVA et CSG. Nicolas, je trouve ça intéressant.
On a combien de dépenses publiques?
On est à 58 selon l'OCDE, 56 sinon.
58. Bon, oui. Et les recettes de l'État, c'est combien au sens global?
Les recettes de l'État.
53. On est dans un budget socialisé et on sent bien qu'on est à la limite de ce modèle.
Allons-y.
Fait un système de redistribution qui est tellement important que le sentiment du salarié sur sa feuille de paye est extrêmement négatif. D'où les envies, d'où la baisse de la productivité. Moi, je vais pas vouloir. On a l'air de chercher la baisse de la productivité. Les gens ont des salaires nets, ils considèrent qu'ils sont plus où. Il y a des entreprises où ils peuvent être bien payés, des entreprises où ils sont assez mal payés. Les gens ont quand même ont un sentiment de salaire net très faible.
Et voilà, justement, c'était l'objet de notre discussion, mais au global, ne faites pas croire qu'en
bougeant un impôt d'un côté à l'autre, il y aura les gens en plus d'argent net.
Comment est-ce que vous avez parlons justement des dépenses.
On passe, mais on ne va pas convaincre Guillaume. J'espère que les auditeurs ont compris qu'il n'y a pas d'augmentation.
C'est pas une hausse prélèvement.
Là où c'est un sondage, Eric.
On passe d'une base de 22-23 millions de personnes et la même somme, on va la répartir sur 40-45 plus effectivement d'autres actifs, notamment financiers, boursier, capital, etc. Donc, on peut, mécaniquement, en augmentant la base.
Sur l'épargne, on est déjà à 30, plus le prélèvement exceptionnel, 33, 34.
Bien sûr, mais
à combien est le taux de fiscalité sur l'épargne dans les trois pays voisins qui ont des modèles sociaux comparables?
Bien sûr, mais l'idée, c'est pas de l'augmenter.
Allemagne, Italie, Espagne, on est entre 22 et 26. Donc, même le prélèvement forfaitaire unique n'a fait que de nous rapprocher du niveau des autres, mais au-dessus.
On reste au-dessus,
on est d'accord.
Oui, on est d'accord.
8 à 10 points
au-dessus. La fiscalité au-dessus. Sur le capital donc, est encore supérieure à la moyenne. Elle a été un peu normalisée.
Mais arrêtez de parler de capital. Il y a sûrement des capitalistes, mais pour la plupart des gens, c'est de l'épargne. Le capital, c'est un moyen pour, on dit, à capital, il faut faire payer cher.
Non, je ne suis pas du tout un ennemi du capital, vous le savez bien, Guillaume.
Parler d'épargne, donc, c'est le prélèvement forfaitaire sur l'épargne.
Sur l'épargne.
Donc, on y est, puisque il y a une exceptionnelle à 3 et 4 %, donc on est à 33, 34. Parce qu'on la voit, la petite musique qui revient, on dit, ah ben, le capital.
Je sais qu'elle revient, cette musique, ce serait la pire des musiques qu'on
dit. Ce serait la pire des musiques. Et je vais pas appeler Jean-Marc, mais enfin, on sait très bien qu'il y a, globalement, l'épargne, c'est, on dit, il y a beaucoup d'épargne, il y a 15% et plus avec le Covid.
Ça, c'est l'épargne populaire, c'est les bas de laine des gens.
Mais sur ces 15, il y en a 10 qui vont au remboursement de crédit. Donc, il n'y a que 5% d'épargne financière pour financer individuellement la retraite. Erwan qui n'aura pas de retraite, il a intérêt à mettre de côté. La dépendance, c'est plus pour moi que pour Erwan. Et collectivement, l'investissement productif, la transition climatique et... pas rembourser la dette, parce que ce serait prétentieux, mais enfin donner l'impression qu'il y a un peu de solvabilité. Donc on n'a pas assez d'épargne. Donc arrêtons de vouloir trouver des solutions magiques, baissons les dépenses.
Alors les dépenses, est-ce que vous avez, messieurs, hier passé une mauvaise journée en tant que macro-éco à l'annonce de ce déficit 0,6 points au-dessus de la prévision? C'est assez rare que la tonalité générale du traitement de l'actualité sur ce sujet purement économique, budgétaire, qui généralement passionne pas les foules, il y avait un peu de fébrilité hier. On sentait que, tiens, est-ce que c'est l'heure de vérité? Est-ce que c'est plus grave que d'habitude? Est-ce que là où c'est toujours passé, ça va peut-être arrêter de passer? Est-ce qu'on est à l'aube d'un moment où est-ce qu'il est minuit moins 5? Enfin, vous voyez, voilà. Est-ce que c'est l'ambiance que vous avez ressentie dans la journée d'hier,
mais oui, Guillaume? Les gens ont fini par comprendre. D'ailleurs, c'est intéressant, on avait l'impression que...
C'est pas une journée déficit comme les autres.
Qu'il y avait BFM Business sur toutes les chaînes, cette fois-ci. C'est-à-dire que vous faisiez toutes les télévisions en continu.
Tout le monde a
parlé
du
déficit. Pour la première fois. Enfin... on demande d'ailleurs, c'est pour ça que la France est un pays romantique, c'est-à-dire qu'elle peut jamais regarder ses chiffres et on s'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur. Le Portugal
en excédent plus ce que
le Portugal avec un gouvernement socialiste a réussi à régler le sujet. Sur la dette, les Allemands, bon, c'est toujours la référence, c'est en 60, mais si vous prenez la Suède, qui est aussi un bon modèle social, la dette suédoise sur le PIB, elle est à combien, Eric?
Je l'ai pas en tête.
Elle est faible, non?
Ouais, 25, 30.
Oui.
Ouais. On a dépensé, et on ne va pas jeter la pierre, ni au président, ni à M. le maire, parce qu'en fait, ils répondent à la demande des Français qui disent c'est plus de mama.
Tout le monde est malheureux du
déficit. Maman, j'en veux. Donc, ils ont.
Il faut penser un peu à soi-même aussi.
Et ça ne suffit pas, puisque personne n'est content. Donc, ce n'est pas
personne
eux, c'est la collectivité. Donc, ce que vous venez d'annoncer, c'est une excellente nouvelle s'il y a une compréhension que ce modèle social, qui a beaucoup d'atouts à certains égards, est devenu hors de prix et qu'il. Maintenant se traduit par une dette qui est très difficile et en plus cette dette, vous avez vu le nouveau chiffre, elle est détenue par l'étranger parce que
oui, mais c'est pas très nouveau, ça a pas beaucoup évolué.
Vous avez pas vu le
alors moi j'ai quoi échos. J'ai 42% de la dette française.
Non, c'est passé à 53 là.
À 53.
Parce que comme la Banque de France arrête d'acheter en net,
oui,
parce qu'en
d'accord.
fait c'était les investisseurs français et la Banque de France. Donc on est passé de l'autre côté.
Non, mais il y a un vrai sujet. Il est évident que cette dépense qui est toujours incontrôlée, j'ai repris des chiffres là en 2000, on était mince, je les ai plus sous les yeux. Est-ce que vous avez passé une mauvaise journée hier?
On était à 20%.
Est-ce que vous vous êtes dit, Eric, ça commence à devenir un peu chaud notre histoire? On est quand même en décalage de plus en plus flagrant avec les autres économies européennes et ça commence à vraiment se voir. C'est pas l'histoire de Moody's. Ce sera pas agréable, un peu humiliant d'être dégradé, mais je sais que le lendemain, l'Agence France Trésor placera les titres de la France sans problème. Mais là, c'est. Il y a un malaise.
Non, ok. Non, mais qu'il y a un malaise, que ça soit inquiétant, tout ça, il faut bien entendu le mettre sur la table. Est-ce que maintenant il faut dire, comme on l'entend, comme on l'a entendu hier, c'est la faillite?
Ah non,
mais attendez, même sur ce plateau, j'entends, c'est la Grèce. Je ne l'ai pas dit.
Par rapport à nous, c'est quoi le problème?
Alors, je vais vous expliquer. D'abord, les agences de notation.
PIB, mais l'Italie est en excédent primaire.
Non, mais tenez, c'est même pas nous. Les agences de notation, elles notent la France combien? 18 sur 20. Elles notent la Grèce combien? 9 sur 20. Elles notent l'Italie combien? 11 sur 20. Alors, si 18, c'est égal à 9... Ok, alors je suis d'accord, mais 18 n'est pas égal à 9.
Non, mais
18
d'accord.
N'est pas égal à 11. Quels sont les spreads d'intérêt, de taux d'intérêt entre l'Italie et la Grèce? Est-ce qu'il y a eu des tensions, d'accord, sur les taux d'intérêt français?
Non.
Est-ce qu'il y en a eu sur l'Italie? Oui. Est-ce qu'il y en a eu sur la Grèce? Oui. Donc moi, je veux bien qu'on annonce tout ça. Je veux bien annoncer que, allez, on est la Grèce. Moi, je pense que ça, c'est déraisonnable.
Guillaume, on vous a laissé parler.
Non, mais Guillaume, il faut arrêter de couper la parole. Moi, quand on dit tout à l'heure, il y a du ressenti et c'est ingrat. Je pense que quand les experts disent la France, c'est la Grèce et l'Italie, ça nourrit un ressenti qui est faux.
J'ai démenti ça.
Oui, d'accord, mais il faut quand même commencer à arrêter cela. Donc dire c'est inquiétant, d'accord, c'est l'Italie et la Grèce, il faut maintenant interdire ce genre de propos. C'est faux.
Je l'ai dit hier sur BFM TV, j'ai dit c'est faux, non, c'est pas la Grèce. Alors, mais maintenant, il n'y a pas un problème français.
On est plus proche de l'Italie que de l'Allemagne. Bon. Voilà. Hein, ça, c'est pas faux.
Non, mais oui,
on est plus proche de l'Italie que de l'Allemagne.
Mais d'accord, mais c'est pas ça qu'on dit, c'est qu'on dit qu'on est au bord de la faillite. Enfin, on entend des hommes politiques le dire.
J'ai pas dit ça, je dis.
Oui, d'accord. Quand on dit qu'on est à la Grèce et l'Italie, c'est qu'on est au bord.
Un pays, ça fait pas faillite, d'accord. Ça fait banqueroute.
Donc, du coup, il faut dire
défaut.
Pourquoi
défaut banqueroute.
Voilà. Pourquoi alors que les déficits baissaient partout et qui baissaient aussi en France, pourquoi ils réaugmentent en 2023? Entre nous, jusque là, il y avait pas grand chose à dire. On a commencé 2019, le déficit était à 2,4.
Oui, absolument.
L'Allemagne était à plus 1,5. Donc l'écart, il était de 4 points entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, même avec notre 5,6, puisqu'ils sont à 2,4, on a à peu près le même écart, même un peu moins. D'accord ? Donc en gros, globalement, la question c'est, eux ils sont dans une dynamique où ça baisse, nous on était dans une dynamique où ça baissait et ça réaugmente. C'est ça qui ne va pas, c'est ça qu'il va falloir corriger, et la question c'est savoir, est-ce qu'on panique ? Comme on l'a dit, et donc il faut aller très vite et faire n'importe quoi et retourner à 2011 et là on va casser la croissance, ou est-ce qu'on dit allez, maintenant il va falloir tenir nos engagements, essayer de faire des économies, quel type d'économie, essayons de réfléchir, mais ne paniquons pas. C'est la dernière chose à faire. Les marchés financiers nous disent on vous fait crédit aujourd'hui, utilisez ce temps de crédit pour prendre les bonnes décisions et pas dire allez, on y va. On tape à la hache. Non, c'est la dernière chose à faire.
Il y a eu hier au gouvernement. Le gouvernement, il a fait ce qu'il peut. Je disais simplement que la demande française de subvention est tellement forte,
très forte,
que c'est au niveau du psychisme global qu'il faut agir.
Mais juste, Eric, mais vraiment très vite, parce que je veux qu'il y aura du temps. On a 4 minutes 40. Vous dites tailler à la hache, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Et effectivement, le décret à 10 milliards, franchement, c'est fait à la va-vite. Par exemple, l'annonce de ce soir, c'est un coup de hache qu'il faudrait.
Non, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous disent, voilà, on a des engagements européens qui est de faire un demi-point de PIB d'économie chaque année. Un demi-point de PIB, c'est aux alentours de 12-14 milliards. Et ben voilà, c'est ça, il faut tenir cet engagement. Et on tient cet engagement, on fait 12-14 milliards d'économies, et il faut qu'ils nous disisent quel type d'économie on va faire, sur qui on va taper.
Il va falloir s'y mettre, hein. Parce que là,
ok, mais c'est ça qu'il faut faire. Et en disant, il n'y a pas de panique, on va les faire, réfléchissons à les économies, il faut sanctuariser les dépenses d'avenir et il faut sanctuariser les dépenses qui ont une incidence sur le court terme.
Et Rouen, par rapport à cette journée, que j'ai trouvé pas comme les autres, franchement, dans le traitement du budget. Généralement, je vais vous dire franchement, le budget, quand j'en parle à mes camarades des antennes d'information générale, c'est un peu compliqué, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Eh ben hier, ça les a passionnés.
Ouais, mais hier aux questions au gouvernement, il y a eu près de la moitié des questions au gouvernement qui étaient consacrées au déficit et à la dette. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir la compréhension parfois limitée qu'ont certains partis justement sur les différents mécanismes budgétaires. Il y a moi ce qui pour prendre un petit peu de hauteur, ce chiffre-là très bien acté. Moi ce qui m'inquiète, c'est les prévisions jusqu'à 2027 qui ont fuité de la part du document qui a été perquisitionné entre guillemets à Bercy. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt en fait d'inverser la tendance. Bruno Le Maire nous annonce 3% en 2027. Quand on regarde la plupart des tendances, il y a très peu de chances qu'on y arrive. Effectivement, se dire dans un vent de panique, il faut l'échéance, c'est le 26 avril et la note qu'on va attribuer à la dette française. Je pense qu'effectivement, on fait une grosse erreur parce qu'on va taper dans des choses qui sont sans forcément mesurer l'évaluation et mesurer notamment l'impact que ça pourrait avoir. Moi, j'ai une petite proposition à faire ce matin. On sait que le gros problème, c'est l'efficacité de la dépense publique. Je pense que les Français, le consentement à l'impôt serait beaucoup plus élevé si on était premier à PISA, si on avait un taux de chômage de 3% et si on avait des logements verts absolument partout. Le problème, c'est que c'est pas le cas. On a la chance en France d'avoir des laboratoires de recherche en économie qui sont parmi les meilleurs au monde. On a des think tanks qui sont exceptionnels. On a des chercheurs en économie qui sont très très bons.
Ils ont leurs travaux.
Mais dans ces cas-là, on pourrait dire on peut rassembler tout ce beau monde. On peut mettre, je sais pas, je dis 15, 20, 30 millions d'euros sur la table. De suite, on dit, vous, dans 6 mois, vous devez nous rendre un rapport, on fait bosser
un nouveau rapport Armand Relef, Attali, un nouveau rapport Pébro.
Non, justement, je suis contre la réunionnite et contre la rapporite. Ce que je dis, c'est qu'on réunit tout ce beau monde-là, on les finance, on fait un travail de recherche, on leur demande de mettre en suspens la plupart de leurs autres travaux, et on demande d'évaluer avec authenticité et avec technicité combien rapporte chaque euro de dépenses publiques dans le budget. Vous faites ça pendant 6 mois. Dans 6 mois, ça nous amène au débat budgétaire du PLF. Et dans le PLF, on coupe. Avec un engagement de dire tout ce qui a tant et tant de degrés d'efficacité en moins, on coupe. Et on se pose la question après de l'externalisation vers le public. Est-ce que la régie autonome des transports parisiens, c'est très bien que ce soit uniquement géré par le public?
On a le droit de poser la question.
Est-ce que la SNCF, c'est très bien quand c'est géré exclusivement par le public? Je ne pense pas. Mais c'est de l'anticipation. Posons la question. On a des excellents macroéconomistes et microéconomistes dans ce pays, on les fait tous bosser, par contre on les rémunère, ça peut être une dépense très utile, et on se dit on va chercher à la fois les rentes et à la fois l'efficacité.
Bon Guillaume, il va falloir trouver le chemin d'accès.
La dernière fois qu'on a été dans une situation très difficile, c'est 58, où là le FMI était en France. En 58, enfin je parle pas de 83, mais parce que ça a été assez court, mais en 58, vraiment l'État français était quasiment en faillite. On dévaluait toutes les 5 minutes. Et qu'est-ce qu'a fait, relisez les mémoires d'espoir, et le général de Gaulle le raconte extrêmement précisément, il a dit, je n'ai pas fait ça avec le ministère des Finances, ni avec les partis, j'ai vérifié qu'il n'y ait aucune fuite dans la presse, on a mis en place, c'est le plan Rueff, même, il n'en a même pas parlé à Pinet. Et ils ont mis en place, et ça a été redressé de façon assez rapide, mais dure. Ça a été très dur. Ça a été un plan très dur. Et je crains que, on sait comme est la France, c'est que, on va dire, c'est pas grave. Eric a dit qu'on avait 18, donc si on a encore 18 sur 20, c'est mieux qu'au PISA. Moi, je pense qu'on n'a pas 18 sur 20 dans le sentiment. On a juste la chance que les investisseurs institutionnels sont obligés d'investir en obligations, oui, et qu'ils ne peuvent pas tout mettre en Allemagne et en Hollande, et donc ils répartissent leurs actifs, et c'est plus un concours de laideur qu'une recherche de beauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas les plus laids, Eric a raison, il y a pire que nous, mais même les pires que nous sont en train de redresser. Regardez la façon dont l'Irlande a réussi à redresser ses comptes, c'est absolument incroyable. Non mais je sais que rien n'est jamais comparable. Fiscal.
Non mais ok, si on est... Oui, l'Irlande fait 25% de croissance.
On va ouvrir un débat sur l'Irlande.
Oui, mais bon, alors le Portugal, je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
Le Portugal, ils ont 1,2 d'excédent.
Mais on sait comment il faut faire. Non, mais on sait comment il faut faire quand on dévalue. Non, quand on fait l'austérité. Hein. Comment a fait la Suède, comment a fait le Canada. Ils ont dévalué leur monnaie, d'accord. Et c'est la seule condition pour le faire. Il faut le faire seul et dévaluer. Le Portugal a fait...
De l'euro, Eric ?
Ça veut dire que dans ces cas-là, il faut arrêter de parler de l'Irlande, de la Suède, parce qu'on ne peut pas dévaluer nous, donc on ne peut pas faire.
Je parle de l'Italie qui essaie de
faire. Mais oui, l'Italie. On ne sort pas de l'euro, mais du studio, mais soyons dans l'oreille. De manière assez subtile.
150 points de.
Bon, moi, je vous ai fait la potion réforme grecque juste sous l'euro.
Combien de déficit italien ? Puisque c'est super, comme le dit Guillaume Dard. 7,2, Guillaume. 7,2. Il faut aller vers l'Italie. 7,2.
Gèrent leur stock.
Ils ont pas rajouté un peu. On arrête. Guillaume Dard, Eric Hier, et Rouen Tison.
Je coupe. Allez, coupez les micros, on stop.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.